Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On fait le match, c'est la 16e de la saison. Comme chaque samedi soir, le meilleur de l'expertise et du décryptage pour tous les publics. Puis à 20h, ce sera RTL Foot avec notamment, mais pas seulement, l'intégralité de Montpellier-Paris-Saint-Germain. Depuis 17h, Rennes-Lens. Et c'est Lens qui mène à Rennes par 1-0. 75 minutes de jeu dans un instant. Philippe Audouin au stade au Roazhon Park. Au menu ce soir, messieurs, Messi au PSG. Fantasme ou réalité? Avec Neymar qui conduit le recrutement du club parisien, est-ce bien raisonnable? Toujours Paris également, jusqu'à 19h. Et le cas Mbappé, c'est grave docteur? Qu'est-ce qui cloche? La tête, les jambes ou les deux à la fois? Après 19h, Marseille au double visage, à l'image de son entraîneur André Villas-Boas, avec une double personnalité, et Marseille également sur les résultats, championnat Ligue des Champions, et donc sur le terrain. La Coupe de France est-elle morte? Ben oui. Ben ouais, annonce Jean Castex. Du coup, faut-il carrément la supprimer? On vous posera la question. Le reste de l'actualité, Zidane en sursis, Vira limogé. D'ailleurs, la France a-t-elle les moyens de payer des indemnités de licenciement alors que les clubs sont endettés jusqu'au cou, Mediapro n'ayant toujours pas l'intention de respecter son contrat. Voilà le menu du soir. Avec moi, Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL. Bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous.
Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Gilles Verdez, le procureur dont refait le match, bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane Pauwels, la voix du Benelux. Comme on disait jadis, que je retrouve avec grand plaisir ce soir. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Tous vos messages via le compte Twitter @RTLFoot relayé par Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste. Émission réalisée par Damien Béchiot. Bonsoir Damien.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Émission filmée sur RTL.fr ou via l'application et son fameux podcast dont refait le match. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match, Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Gilles Verdez et Stéphane Pauwels, mais également Philippe Audouin. Et il s'en passe des choses au Roazhon Park, puisque Lens mène désormais à Rennes par 2-0. Bonsoir Philippe Audouin.
Bonsoir Christian, bonsoir tout le monde. Effectivement, surprise au Roazhon Park. Je ne sais pas si on peut parler de surprise compte tenu de la passe rennaise terrible depuis 2 mois. 2-0 désormais pour le promu sans erreur à 11 minutes de la fin, puisque Ganago sur un contre vient de doubler la mise pour les Lensois, alors que Kalimuendo avait marqué à la 28e minute. Et Rennes, avec 4 changements à la mi-temps décidés par Julien Stéphan, Rennes n'a pas eu la moindre occasion en deuxième période. C'est inquiétant pour les Bretons.
Alors on change nos programmes, on bouleverse nos programmes, nous modifions le conducteur, comme on dit dans le jargon des émissions. Nous allons parler de Rennes avant de parler du Paris Saint-Germain, et on parlera du Paris Saint-Germain et du reste de l'actualité également tout au long de ce On refait le match. Philippe, tu restes avec nous. Je donne une autre information d'ailleurs, information Ligue 2. Le leader, le Paris FC, a été battu tout de même à 3 hein, cet après-midi. Plus ça va là, actuellement en tous les cas, moins ça va pour les joueurs du président Ferracci. 3 a battu le Paris FC sur le score de 2-1. Messieurs, Lens qui mène à Rennes par 2-0. Il reste 10 minutes. Philippe Audouin, tu suis Rennes du premier jour au dernier jour de l'année. Tu peux intervenir dans ce débat qui va nous animer. Que se passe-t-il au stade rennais? Car effectivement, on parle de surprise. Mais est-ce finalement une véritable surprise, messieurs? Gilles Verdez.
Ben moi, j'ai l'impression que c'est pas les joueurs qui ont lâché l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui a lâché les joueurs. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup, Julien Stéphan, mais pour moi, il est parti dans sa tête. Il le dit lui-même quasiment, c'est la fin d'un cycle. Et donc, il n'y croit plus. Je me demande même s'il n'a pas des contacts ailleurs. Et là, à mon avis, ça va être imminent. Je pense qu'il ne passera pas la trêve, parce que Rennes est sur une victoire en 13 matchs. Ils ne gagnent pas ce soir et ils ne gagneront sans doute pas. Donc, c'est pour moi la fin d'un cycle. Ça ne marche pas avec Florian Maurice, qui est quelqu'un de très compliqué en matière de recrutement. C'est-à-dire Florian Maurice, globalement, si vous n'avez pas ses idées, vous n'avez pas de bonnes idées. Le président Olvec est d'une transparence infinie, donc je pense que Rennes est en crise et que l'ère Stéphan est finie.
Alors ça, c'est le constat des dirigeants.
Il y a 15 jours, vous m'avez dit que j'avais quelque chose contre Julien Stéphan. En aucun cas, c'est juste qu'on est allé un petit peu vite pour le qualifier de nouveau Guardiola, mais aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il est nul, non. Mais il a perdu le fil, et je constate quand même une chose, et c'est là où je ne partage pas l'avis de Gilles sur le recrutement, c'est-à-dire que c'est quand même lui, globalement, qui a eu la main sur le recrutement cet été. Il y a un an, un peu plus, il a eu la tête de son président, Olivier Létang. clairement, tout le monde le sait, on va pas faire semblant, tout le monde sait qu'il a eu la tête de son président. À l'époque, son président, il faisait le recrutement. Et ben peut-être qu'à un moment, les entraîneurs, ils doivent entraîner. Et les présidents ou les directeurs sportifs, ils doivent faire le recrutement. Parce que ce que je constate, c'est qu'en tout cas, depuis qu'il est devenu le vrai patron de ce club, eh ben ça va un peu moins bien.
Stéphane Powell.
J'ai entendu ce que disent les deux amis et je vais pas répéter. Moi, je rejoins, mais je rejoins plutôt Sébastien sur la partie recrutement. Je m'en explique. Pour les mêmes raisons que vient de dire Sébastien, c'est que je pense que M. Stéphane a voulu avoir beaucoup de pouvoir. Pour avoir beaucoup de pouvoir, il ne faut pas trop se tromper, alors, parce que ça coûte très cher. Je vais donner un exemple. Même dans mon pays, on s'est marré, quoi. C'est Doku, 20 millions. 27 millions plus, avec les primes. Ouais. 27 millions. Et quand on est en train de nous expliquer que c'est un phénomène du football belge, bon, moi je veux bien, hein, mais alors j'y connais rien, il faut que j'arrête le foot. Mais Tielemans, c'était un phénomène aussi. Il a mis du temps. À Monaco, il avait montré pendant 3 saisons Anderlecht qu'il avait du potentiel. Doku, il a fait 10 matchs avec Anderlecht. Donc, juste pour terminer sur le recrutement, quand on paye des sommes pareilles et qu'on vient t'expliquer que c'est un projet dans la durée, il faut être costaud, hein, faut être blindé comme entraîneur. Après, et il faut que tout le monde soit solidaire à ce projet-là.
Je me mets un instant, et je donne la parole à Philippe Sanfourche, puis à Philippe Audouin. Je me mets simplement un instant à la place du public qui nous écoute. Stéphane, tu dis, sinon je connais rien au foot, sinon j'arrête. Mais par rapport à Doku et l'expertise que tu en fais à 25 millions, c'est parfaitement audible. Mais le public qui nous écoute...
Vous les prenez pour des dingues quand ils vont sur Internet et qu'ils voient que le mec a fait 10 matchs avec Anderlecht, qui est une équipe moyenne du football
belge. Mais à contrario, ça veut dire que Stéphane, Hulweg et les dirigeants n'y connaissent absolument
rien. C'est pas ça que je vous dis, je vous dis qu'ils n'ont pas travaillé en équipe et en symbiose. Ça veut dire qu'il y a des décisions qui ont été prises par un, on parlait de M. Maurice tout à l'heure.
Qui prend la décision
et
pour
le président. Il y a trois personnes pour faire un bon recrutement.
Donc, il faut signer le chèque quand même.
Il faut faire le chèque.
Donc le président, il est d'accord.
Mais donc il y a quand même quelqu'un qui a décidé de le faire, ce Doku. Enfin, ce Doku, vous avez compris, c'était pour rire. Mais à un moment, il y a bien quelqu'un qui avait envie de le faire.
Mais eux connaissent le football également autant que toi, Stéphane.
Après, tu as le droit de te tromper, Christian.
Ça coûte cher, c'est vrai.
Ça peut arriver.
Philippe Sanfourche.
Il y a aussi l'actionnaire, hein, faut pas l'oublier. Et souvent, quand les chiffres deviennent importants comme cela, l'actionnaire a son mot à dire. Et comme par hasard dans l'histoire de Rennes, quels que soient les présidents, quels que soient les entraîneurs, les directeurs sportifs, il y a souvent eu des phases où parfois le recrutement était un peu amorphe, il se passait rien, puis d'un seul coup, tac, ça se débloque. Et puis à des prix que personne ne pouvait mettre, parce que, comme par hasard, il y a un actionnaire fort qui est capable de suivre. Donc ça, c'est pas en lien avec Stéphane. Faut pas oublier non plus. Il voulait beaucoup de pouvoir, on dit. C'est surtout que c'était un duel, quoi. Et dans un duel, il y a toujours un mort. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait aussi toute une partie du club qui ne voulait plus d'Olivier Létang et qui a vu en Julien Stéphane l'homme qui allait reprendre.
Gens dans l'environnement du club, c'est différent.
Mais en gros, dans toutes les strates du club, il y avait la moitié pour schématiser, il y en avait une moitié pour Létang, une moitié
c'est-à-dire
pour.
C'est-à-dire dans l'environnement du club. À Rennes, c'est particulièrement calme, mais à Rennes, c'est pas le PSG,
c'est juste qu'on en parle moins, mais Rennes, ça a été de tout temps. Quelque chose de très tendu entre des influences des uns et des autres, bien avec le père Pinault, le fils Pinault. Il y en a qui perdent du pouvoir, il y en a qui gagnent du pouvoir. René Ruello, par exemple, a été président, il s'est fait virer, il est redevenu président.
Aussi, c'était compliqué.
Ce sont des tendances qui bougent régulièrement.
On va la poser, cette question, à Philippe Audouin, qui suit quotidiennement le Stade Rennais. Ces tensions sont palpables en coulisses au sein des dirigeants du club. Philippe Audouin, est-ce que, c'est ma deuxième question, ceci explique cela actuellement?
Pas pour le moment, il n'y a pas de tension palpable pour le moment. Justement, l'air est beaucoup moins vicié qu'il y a un an.
Ben oui.
Olivier Létang travaillait un peu dans le dos de son entraîneur. Et c'est vrai que Julien Stéphane réclamait c'est lui ou moi, en quelque sorte. Alors, ça a été lui. Donc maintenant, c'est à lui d'assumer la responsabilité. Ceci étant, même avec Olivier Létang président, je rappellerai que Rennes a eu des crises de résultats. Hein. Il y a 2 ans, quand Lamouchi est arrivé à la même époque qu'en ce moment, c'était au mois d'octobre, grosso modo. Il y a un an, Rennes était également dans une crise de résultats. Donc, faut pas non plus dire avec les temps tout était merveilleux.
Ah non, mais personne ne dit ça.
Et ils ont Rennes à mal gérer.
Juste
rapidement, personne ne dit ça qu'avec Olivier Létang tout était formidable. Et je pense qu'Olivier Létang, il veut un peu trop se mêler du sportif chaque week-end.
C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure, Sébastien.
Mais en revanche, pour faire le recrutement, je pense qu'il était meilleur que Julien Stéphane, c'est tout.
Gilles Verdez.
Ce n'est pas la faute de Stéphane. S'il veut partir, c'est parce qu'il sent qu'on le met dehors. On ne peut pas travailler avec Florian Maurice. C'est impossible. Impossible. Stéphane, il ne peut pas travailler avec Florian Maurice. C'est très compliqué. Florian Maurice, il vous impose ce recrutement. Vous dites qu'il a choisi. Il n'a rien choisi, Stéphane. Il n'a rien choisi. C'est Florian Maurice. C'est Florian Maurice, quand il arrive quelque part, c'est lui qui fait. Ça marche ou ça ne marche pas.
Deuxième.
Vous pouvez pas me dire que si. L'année dernière, je ne connaissais pas la question, que Stéphane voulait se débarrasser de l'étang parce qu'il voulait tous les pouvoirs et que maintenant, au prétexte qu'il a accepté et validé la venue de Florian Maurice, et Florian Maurice, il mange à l'aine.
Moi, j'ai pas dit qu'il voulait tous les pouvoirs. J'ai pas dit que Stéphane. Moi, j'ai pas dit que Stéphane voulait tous les pouvoirs. Il pouvait pas travailler avec Monsieur l'étang. Donc, il a dit, c'est lui ou moi. Il voulait pas tous les pouvoirs. Il veut travailler en harmonie. Et là, il y a pas d'harmonie. Ils ont mal géré en plus les deux cas extrêmement.
Vous ne parlez pas des joueurs, les amis. Là.
Si, moi, je veux bien les deux joueurs phares, c'était Mbaye Niang qui voulait partir. Il est resté. Du coup, il n'y est plus du tout. Il veut pas jouer. Et Kamavinga, qui a eu des problèmes avec un changement d'agent extrêmement compliqué, qui lui a pris la tête beaucoup plus que ça ne prend la tête à d'autres joueurs.
C'est pas le changement d'agent, Gilles. C'est son départ avorté pour l'Angleterre.
Non, ouais, c'est le changement d'agent aussi. Et l'équipe de France, non, il a eu du mal à digérer. Donc les deux joueurs stars, ils sont plus là.
Mais Kamavinga, on en parle. Vous voulez parler du terrain? Parlons du
Sébastien
terrain.
Sébastien Tarago.
Et la gestion des joueurs. Kamavinga, il a beaucoup trop joué. Il a beaucoup trop
cramé.
Parce que Julien Stéphan, à un moment, il s'est dit, ce joueur-là marche sur l'eau, je vais le presser au maximum pour gagner des points. Et il n'a jamais pensé au moyen terme. Et aujourd'hui, il est cuit bouilli, Kamavinga. Beaucoup trop joué. Regardez ses statistiques.
Alors, je, dans la continuité de ce que dit Sébastien, c'est que Gilles, tout à l'heure, au début de son intervention, la première intervention, Gilles, tu dis, qui a lâché qui? Et donc, tu es en train de nous dire que c'est l'entraîneur qui a lâché les joueurs.
Il veut partir.
Mais il faut que tu me l'expliques, ça, parce qu'un entraîneur qui est comme Stéphane, qui a montré des choses quand même dans le fighting spirit et de mettre un groupe, tu me dis qu'il est en train de dire à ses joueurs, je vais me barrer. Moi, j'ai pas l'impression que c'est ce sentiment-là. J'ai plutôt envie de dire dans la gestion de groupe qu'il y a des joueurs qui sont très fatigués, Kamavinga. Il y en a, c'est du mauvais recrutement parce qu'ils sont pas prêts pour le haut niveau. On l'a vu avec Doku en Europe, quoi. C'est pas prêt. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de lassitude. Alors ça, je veux bien de lassitude, mais de tout le monde. Mais venir dire que je comprends pas. Tu vois, Gilles, où tu veux en venir, c'est tu dis que c'est lui qui les lâche.
Mais Gilles, ce serait quand même Gilles, vous qui aimez le haut niveau. Ce serait quand même d'une lâcheté totale de la part d'un entraîneur de dire allez, moi j'abandonne, j'arrête.
Non, c'est de l'honnêteté, c'est le constat d'une impuissance qui lui fait dire je n'ai sans doute plus ma place ici.
Non, mais là, pour le coup, on peut poser la question à Philippe Audouin, il n'est pas question pour Stéphane de déserter, mais néanmoins, il est quand même sacrément maintenant fragilisé, Philippe.
C'est deux choses. Oui, enfin, je pense qu'il va s'écouler beaucoup de temps avant que Stéphane puisse être évincé. Après, je suis d'accord avec Gilles, je ne dirais pas qu'il a lâché. Ses joueurs, Julien Stéphane, mais il a envoyé belle occasion pour Lens, c'est Salin qui s'interpose, je dirais qu'il a envoyé un mauvais signal ces derniers temps en parlant de fin de cycle. Franchement, c'était pas le moment pour lui, même si à ce moment-là les résultats étaient plutôt bons, c'était quand même pas le moment de dire en début de saison que peut-être que l'an prochain il serait plus là.
Le problème de Rennes déjà, avant de se pencher sur le problème spécifique de Rennes, c'est aussi le problème de tous les clubs qui découvrent la Ligue des Champions. Ça bouffe une énergie monumentale, que ce soit sur le plan psychique ou physique. Donc déjà, ils y laissent des plumes.
À condition de la jouer vraiment, quoi.
Oui, non mais
ils ont essayé.
Après,
moi, je me souviens du premier.
Entre parenthèses,
ils ont essayé.
Mais ils sont pas au niveau.
Je me souviens des commentaires sur le premier match et à emporter le Stade Rennais au Pinacle avec un match nul concédé à domicile devant Krasnodar.
Je suis d'accord, ils doivent faire mieux. Mais ils doivent faire mieux. Mais globalement, ils n'ont pas le niveau de la Ligue des Champions.
Non. Globalement, ils n'ont pas le niveau. Julien Stéphan est le premier à le savoir. L'an passé, il n'hésitait pas à dire, pas devant les micros et les caméras, mais derrière, que si le championnat s'était terminé, il y a quand même très peu de chances qu'il soit terminé devant Lille. Donc, il en était conscient. Soit dit en passant, si on regarde aujourd'hui, les clubs qui ont bénéficié de l'arrêt du championnat, ce n'est pas de leur faute. Ça s'est passé comme ça. Mais ceux qui avaient décroché la timbale, c'était Rennes, c'était Reims, c'est tennis, on voit où sont ces clubs aujourd'hui, mais quand ça va trop vite sportivement, et pour rebondir, tu le payes.
Pour rebondir, Philippe, ce que tu dis, c'est que je pense que tout à l'heure, quand Gilles dit on a laissé, il y a des cadres qui sont partis, et on ne va pas se mentir, comme cette équipe-là maintenant est une équipe qui n'a pas l'envergure pour jouer l'Europe, et qui n'ont pas, ils ont mal remplacé, et j'en reviens sur le recrutement, quand tu perds 2-3 pions importants, tu ne peux pas trop te planter, et derrière, je pense qu'ils ont fait des paris. Et est-ce que c'était des paris qu'il fallait faire ou bien des valeurs sûres? Est-ce qu'il fallait aller chercher des mecs pour combler les trous?
Ils avaient fait Zanzi avant, c'était très bien.
On arrive, Philippe, on arrive. Oui. Philippe Audon, alors.
C'est juste pour rebondir sur ce que disait Gilles à l'instant. Il y a un an, souvenez-vous, la moitié de l'équipe qui avait gagné la Coupe de France avait été démantelée. Ça n'avait pas plu à Julien Stéphane. Ouais. Et malgré ça, malgré d'ailleurs un début de saison difficile, je vous le disais tout à l'heure, Julien Stéphane avait réussi à remettre en marche quelque chose. Donc, cette année, j'ai envie de dire, il y a eu moins de changements qu'il y a un an. Par contre, Kamavinga, c'est plus le même. Par contre, ça manque un peu de caractère. Bon, il y a sans doute un ensemble de raisons qui fait que Rennes s'est planté pour le moment. En Europe, oui, évidemment, Rennes n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Mais le moins qu'on pouvait demander aux Bretons, c'était quand même de chercher la troisième place.
On ne saura pas si Rennes a le niveau de la Ligue Europe. Il reste combien de secondes à jouer dans le temps additionnel?
C'est terminé à l'instant, Christian. 2-0 pour le promu Lensois au Roazhon Park. Donc face à Rennes, Kalimuendo en première période, Ganago en deuxième sont les buteurs sans erreur. Et ça fait maintenant 13, une victoire sur les 13 derniers matchs. Je crois que ça doit faire 5 défaites sur les 6 derniers ou 6 défaites sur les 7 derniers matchs pour Rennes.
Merci, moi. On m'avait dit qu'on aurait fait 20 minutes en ouverture d'en faire un match.
On peut peut-être féliciter Lens.
Merci Philippe. Et on peut féliciter
Parce que Lens pour un promu où tout le monde annonçait déjà que ça allait être compliqué. Pour finir, il s'en sort de bien. Il n'y a pas de vraie vérité sur le
fait. Lens qui était 9e au classement ce matin. On verra ce que ça donne à l'issue des.
Qui va doubler Rennes. Lens va doubler Rennes.
Les messages sur les réseaux sociaux, notamment le compte @RTL Foot contre Twitter, Baptiste Durieux.
Oui, on pourrait faire 20 minutes avec les messages aussi, Christian, il y en a beaucoup. Message de Stéphane, l'impression de vivre le même cauchemar qui se répète encore et encore. Message de Laura, même match depuis 15 matchs, 3 petits points. Message de Marco, au nord, c'était les corons, à l'ouest, on fait le dos rond. Message de Julien, bien triste pour mes Rennais, aucune révolte. C'est toujours cette impression qu'on pourrait jouer 12 heures sans marquer un but. Encore plein de messages, hein. Miguel, le pire c'est que chaque but qu'on prend, on le voit arriver 10 secondes avant, c'est la cata, c'est la crise. Julien aussi qui nous dit, c'est incroyable comment Rennes fait le même match depuis 2 mois. Il faut vraiment que Stéphane parte, ça fera du bien à tout le monde. Il est en train de louper tous les wagons. Et puis une dernière réaction, message de Steven, très très inquiet pour la suite de la saison. Niveau pitoyable des joueurs, des dirigeants ne vont pas pouvoir cacher la crise ce soir.
Merci Baptiste, la crise à Rennes et félicitations au Racing Club de Lens. Victoire lensoise à Rennes sur le score de 2-0. 18h50, c'est on fait le match. Après la publicité, le Paris Saint-Germain, Messi au PSG, fantasme ou réalité avec Neymar qui conduit finalement le recrutement du club parisien. Tout de suite.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On refait le match, oui. 18h52 et même durant la pub, je le dis à chaque fois, le débat continue, on devrait ressortir et faire une émission spéciale des débats qui nous animent durant la publicité. Je vous rappelle que Lens est allé gagner à Rennes sur le score de 2-0 et que c'est probablement un début de crise au stade Rennais. Et félicitations une nouvelle fois au Racing Club de Lens. Le Paris Saint-Germain, Neymar sur Messi, ses déclarations à la sortie du match PSG Olympiakos remporté par le Paris Saint-Germain chez ESPN. En substance, Neymar veut jouer avec Messi et probablement au Paris Saint-Germain, même s'il n'a pas cité le Paris Saint-Germain. Mais on ne voit pas Neymar retourner à Barcelone et on ne voit pas, mais on peut en parler également, Neymar et Messi jouer la saison prochaine à Manchester City. Je voudrais savoir, est-ce que cette réaction d'après-match vous a choqué?
Oui.
Stéphane Poel.
J'étais complètement. Non, mais j'ai vraiment été choqué.
Pour être choqué, il faut être surpris.
Et je l'ai tweeté tout de suite. Non, mais d'abord, je vais vous expliquer. Dans un club, il y a une hiérarchie, il y a un organigramme. Il y a un directeur sportif, il y a un patron dans un club. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a fait un grand match, on peut le dire, un très bon match. Ça faisait 6 mois qu'on attendait ça. On lui tend le micro.
Non, quand même pas.
Ouais, bon, j'exagère. Ok, allez, on va dire 2 mois. Mais le mec, on lui tend le micro.
Ça compte.
Et il vient t'expliquer, écoutez, moi, j'aimerais bien jouer avec Lionel Messi. D'ailleurs, c'est sympa pour ses copains. De deux dans un club, je pense que même qu'il y a une hiérarchie. Et donc, je pense que c'est Monsieur Leonardo qui devrait parler. Et Messi vient, lui, et il lance une saucisse comme ça. Une saucisse qui peut perturber l'équilibre de l'équipe de Paris, qui peut perturber l'entité parisienne, mais aussi au Barcelone. Parce que tout le monde nous tend. Je vois que Daniel Rolo, notre copain Daniel, est en train de dire partout, c'est fait. Messi va venir au Paris Saint-Germain. Mais Messi, pour l'instant, il est toujours au Barça, hein, il va peut-être rester. Qu'est-ce que c'est que ces spéculations? Moi, ce qui me choque, et j'arrête, c'est que ça vient d'un joueur. Un joueur est là pour jouer. Sébastien Tarrago l'a dit tout à l'heure, un président, il préside, un directeur sportif est là. Voilà. Moi, ça me choque. Voilà,
Philippe,
ça m'a choqué.
Je ne suis pas choqué.
Mais absolument pas. Je n'ai pas choqué, surpris. Parce que déjà, pas surpris. Après, tout ce que dit Stéphane est frappé au coin du bon sens, mais dans un club normal, pas au PSG. Le PSG, c'est autre chose. C'est une autre entité. Ça dépasse le cadre d'un club, puisque c'est un État qui est à la tête, que le but du jeu est au-delà du sportif. Qu'il est aussi en termes d'image, en termes de rayonnement international, que Messi, c'est de toute façon une des cibles du Qatar depuis le début du projet. Simplement, il y a un moment où c'était totalement inaccessible et aujourd'hui, c'est en phase de pouvoir le devenir. Neymar, lui, il faut le considérer comme ce qu'il est, c'est-à-dire un joueur fantasque, brésilien, un gamin dans sa tête, qui est capable de passer d'un truc à l'autre, d'un jour à l'autre, selon son bon vouloir, selon son humeur et selon si ça se passe bien ou pas. Lui, il est en position de force, il dit voilà, moi je veux jouer avec lui. Et là où je vais être un peu plus concret, je pense que en ce moment, il parle beaucoup dans le vestiaire, lui, Mbappé, Di Maria, tous les joueurs qui comptent.
Il faut qu'ils arrêtent de parler, qu'ils jouent au foot, qu'ils gagnent la Champions League.
La tendance du moment, c'est quoi ? La tendance du moment, c'est que Mbappé ne restera pas au PSG et que Neymar, lui, ne peut pas aller ailleurs. Donc, il va rester au PSG et il sait qu'il y a la place pour un autre grand joueur et c'est celui-là qu'il veut. Donc, il envoie son message.
On va parler de Mbappé dans un instant. Alors, saucisse, pression sur les dirigeants du PSG, ou alors, troisième hypothèse, mais ça c'est pour animer le débat, est-ce qu'il n'aurait pas été envoyé en service commandé par les dirigeants du Paris Saint-Germain ?
Alors moi c'est le décryptage du club de l'intervention de Neymar. Donc d'abord, ça n'a absolument pas surpris au club, et pour le club, pour le PSG, Neymar en fait s'adresse directement à Barcelone. Neymar et son père qui sont en guerre de plus en plus ouverte avec Barcelone, qui réclament de nouveau 10 millions d'arriérés à Neymar, et ça ne cesse pas. Neymar veut, entre guillemets, créer des problèmes à l'intérieur de Barcelone. Donc il s'est très bien aiguillé par ce journaliste, il sait très bien qu'en disant ça, il va semer la zizanie encore plus, si c'est possible, à Barcelone, au moment où il y a une crise présidentielle à Barcelone. Donc Neymar fait exprès. Neymar sait également que c'est impossible que Messi vienne si lui, Neymar et Mbappé jouent au PSG. Financièrement, c'est pas possible. Si un jour Messi vient, c'est parce que Mbappé sera parti. À 300 millions en provenance d'Angleterre ou d'Espagne, le PSG réfléchirait éventuellement pour Mbappé. Mais ce n'est pas l'actualité. L'actualité du PSG, c'est de tout faire pour une question de visibilité, pour une question d'attractivité, pour prolonger Mbappé. Donc c'est la priorité absolue. Prolonger Mbappé. Faire qu'Mbappé reste au PSG. C'est la priorité absolue.
Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui,
Messi, c'est du fantasme. Ah, et Neymar voulait casser encore un peu plus Barcelone en interne.
C'est un coup de billard à 80.
Non, c'est simple.
Non, mais
ça se tient.
La réalité, c'est qu'il y a des élections bientôt au FC Barcelone et que déjà, de cette élection découlera une position de Messi. Donc dire aujourd'hui que Lionel Messi sera parisien la saison prochaine, ça me paraît aventureux. Si la direction va changer au FC Barcelone, si c'est une direction qui convient davantage à Lionel Messi, je pense que Lionel Messi aura plutôt la volonté de poursuivre et de finir sa carrière dans son club. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt. Après, tout ce qui a été dit est juste, voilà, on joue des coups, on avance des pions. Fondamentalement, quand vous écoutez la déclaration de Neymar, elle paraît pas aussi brutale.
C'est pas lui qui a mis le débat, la question lui est posée.
Tout est possible alors. Une saucisse, un coup de pression.
Non, on lui pose une question. Il est pas naïf, je suis d'accord.
Je ne répondrai pas à cette question.
On nous sommes d'accord.
Neymar, ça aurait été beaucoup plus facile.
Je suis d'accord, mais Neymar parfois. Il peut lui arriver de répondre assez spontanément.
Mais non, mais il avait prévu de faire
comme
ça.
Il avait prévu. Je pense que Gilles est proche de la vérité. Ça revient à ce que je dis. Est-ce que c'est le rôle d'un joueur? Est-ce que c'est le rôle d'un joueur qui joue Paris Saint-Germain de mettre des saucisses comme ça?
Quand vous voyez la déclaration, franchement, quand vous la réécoutez, que vous voyez le visage, la question, la réponse, franchement, il y a une forme de légèreté. Une insouciance qui me paraissent plausibles.
On poursuit le débat sur Neymar, sur le Paris Saint-Germain, hein, sur Mbappé également, mais également sur Marseille, sur la Coupe de France, sur Zidane, sur Patrick Vieira et sur Mediapro et les tirs au but en fin d'émission. Le menu est riche après la pub et après les informations de 19h. Si on fait le match, restez avec nous.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.
Il est 19h. On fait le match revient après les informations présentées par Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. La journée de manifestation perturbée par de nombreux incidents aujourd'hui. Mobilisation syndicale au départ rejoint par les opposants au projet de loi sécurité globale. Deux policiers ont été blessés à Nantes, l'un d'entre eux par un cocktail Molotov. À Paris, 30 personnes interpellées. Des violents affrontements ont éclaté sur l'avenue Gambetta. Plusieurs voitures incendiées, des commerces vandalisés. Les manifestants ont rapidement été bloqués. Valentin Boisset, certains d'entre eux sont finalement arrivés place de la République, où vous trouvez pour RTL.
Oui, c'est une fin de manifestation houleuse ici entre la pluie et le gaz lacrymogène qui continue de pleuvoir lui aussi sur la place. Les violences se concentrent sur l'entrée de la rue du Temple. Quelques petits feux de poubelle sont allumés ici et là. Les pompiers n'interviennent pas. Ils ont du mal à se frayer un chemin et une sandwicherie en camion a dû fuir. La manifestation se termine sur le slogan « Tout le monde déteste la police ». Mais il y a aussi beaucoup de jeunes, des lycéens, des étudiants qui observent les échanges de bouteilles et de gaz. Marie, 18 ans, me disait tout à l'heure qu'il est important pour elle de rester jusqu'au bout. Et si elle a chanté devant devant moi, tout le monde déteste la police, elle l'affirme, elle n'englobe pas tous les policiers. Elle est venue suite aux images du tabassage de Michel Zecler. Alors actuellement, la place commence sérieusement à se vider. Il reste environ un millier de personnes sur la place de la République.
Valentin Boisset en direct pour RTL. Valérie Giscard d'Estaing enterrée dans la plus stricte intimité aujourd'hui, conformément à ses souhaits. Il n'y a pas eu d'hommage national. Seule une quarantaine de ses proches ont assisté à la cérémonie dans son petit village d'Auton, dans le Loir-et-Cher. Valérie Giscard d'Estaing, président de 74 à 81, décédé mercredi dernier des suites du Covid-19. Face à l'épidémie, la réouverture des discothèques, ce n'est pas pour tout de suite des discothèques. Emmanuel Macron l'a confirmé lors d'un échange avec des jeunes. Il promet de le faire au plus vite, mais le chef de l'État estime que ce serait de la folie, je cite, de rouvrir les boîtes de nuit tant que le virus circule de manière un peu intense. Il serait l'un des auteurs de l'attentat de la rue des Rosiers. Près de 40 ans plus tard, l'un des suspects vient d'être mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, placé en détention provisoire. Cet homme, aujourd'hui âgé de 62 ans, avait été extradé hier par la Norvège, où il s'était installé depuis 1991. L'attentat de la rue des Rosiers avait fait 6 morts et 22 blessés en 82 à Paris, dans le quartier du Marais. Enrico Macias dit avoir perdu un frère après la mort de son compagnon de scène Robert Castel, comédien, musicien juif, né en Algérie, figure emblématique de l'humour pied noir. Il s'était fait connaître avec la pièce de théâtre La famille Hernandez en 1957. Robert Castel avait 87 ans. En rugby, le top 14, c'est la mi-temps pour l'instant entre Toulouse et Bayonne. Toulouse qui mène pour l'instant 21 à 13. La Rochelle est en tête 8 à 6 face à Lyon. Et puis Brive mène 6 à 3 face à Agen. Notez que cet après-midi, le Racing 92 a battu Bordeaux-Bègles 17 à 12. Et puis dans le Vendée Globe, Charlie Dalin continue de faire la course en tête avec plus de 200 000 d'avance sur le suivant. Aujourd'hui, on a appris l'abandon de l'Anglaise Samantha Davis. Le cinquième abandon depuis le départ. Il reste 28 concurrents. La météo pour demain. Nouvelle journée maussade sur la moitié ouest avec des averses passagères. Quelques orages possibles sur le littoral aquitain. Et puis on risque aussi d'avoir quelques flocons de neige en pleine vers la Normandie, la région parisienne et le Limousin. De la neige également attendue en quantité plus importante sur les reliefs. Évidemment, côté température, 3 degrés attendus à Belfort. Il fera 4 à Lille, 6 à Paris, 8 à Brest, 10 à Marseille, 12 à Ajaccio. 19h04 sur RTL. La suite dont on fait le match avec Christian Olivier.
Merci Alexandre. Prochaines informations, 20h.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année et un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h, 20h, 23h, RTL Foot avec Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Xavier Domer, Grémont Abou et Quentin Vasselin. L'intégralité notamment, mais pas seulement, il y aura plein d'autres jolis rendez-vous. L'intégralité de Montpellier-Paris-Saint-Germain et la possibilité ce soir de voir Montpellier, leader du championnat, classement provisoire en attendant les résultats des matchs de demain. Nous n'en sommes pas là. Je vous rappelle le résultat du soir, match de 17h, la victoire de Lens à Rennes sur le score de 2 buts à 0. Et venez pas nous dire qu'on ne parle que du Paris-Saint-Germain, car on a fait 20 minutes sur le stade Rennais tout à l'heure en début d'émission. En Ligue 2, le Paris FC s'est incliné à 3. Paris FC leader à 3 sur le score de 2 buts à 1. On fait le match avec donc Sébastien Tarrago, Philippe Sanfour, Gilles Verdez et Stéphane Poels, mais également avec Baptiste Durieux et vous tous pour vos messages sur le compte @RTLFoot.
Beaucoup de messages sur Messi, notamment message d'Adrien. Lors de cette soirée mancunienne, il parle évidemment du match à Manchester du Paris Saint-Germain. En 2 heures, on est passé de jouer l'Europa League à recruter Messi, mais quel club incroyable. Message de Marc. Imaginons un instant que Messi signe au Paris Saint-Germain et j'imagine déjà les fous rires que j'ai me taper quand les supporters du Paris Saint-Germain vont découvrir qu'il marche pas quand il a le ballon. Non, qu'il marche quand il a pas le ballon. Message de Bastien, je vous jure que les Barcelonais préféraient que Messi aille au Real plutôt qu'au Paris Saint-Germain. Message de Loïc également, en étant pragmatique, Messi au PSG, bah, c'est logique quand on connaît la situation financière du Barça, la situation sportive aussi, un Messi qui n'en peut plus face à un Paris Saint-Germain et son Neymar en directeur sportif, corrélé également au départ de Mbappé qui se dessine, ça me semble tout à fait possible. Et puis enfin Xavier qui nous dit 4 ans à nous expliquer que Neymar est parti parce qu'il en avait marre de Messi, juste pour ensuite le voir mendier un retour au Barça en 2019 et maintenant l'arrivée de Messi au PSG en 2020, c'est du grand n'importe quoi.
Je suis pas sûr que ce soit exactement exactement cela tout de même. Hein, le tandem Neymar-Messi. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, Neymar voulait aussi un peu plus de, un peu plus de soleil et moins d'ombre. La Ligue 2 avec Baptiste Durieux.
14e journée, effectivement. Beaucoup de rencontres à l'affiche. Toulouse, Guingamp, Dunkerque, Châteauroux, Rodez, Amiens, Chambly, Valenciennes, Clermont-Pau, Sochaux, Nancy, Caen, Grenoble et puis Auxerre, Niort. Un seul but marqué pour l'instant par Auxerre qui mène donc face à Niort 1-0. Et puis un peu plus tôt, c'est le Paris FC qui a abandonné son siège de leader après sa défaite sur la pelouse de 3-1.
Merci beaucoup Baptiste. J'ai pas le sentiment qu'il y ait eu beaucoup de tensions entre Messi et Neymar durant leur cohabitation à Barcelone. Alors les victoires, les trophées ont sans doute aidé. Mais peut-être que sur la fin, Neymar voulait un peu plus d'exposition. Non, j'essaie de me souvenir comme cela de. Il n'y a pas eu de clash.
Non,
il n'y a jamais eu de clash entre Neymar et Messi.
Non, mais après, non, ils sont.
J'essaie
ils sont
de me souvenir.
Non, ils sont très copains. D'accord. Ils sont très copains.
Ils font les mêmes soirées.
Après, ce sont. On peut plus envisager le football malheureusement à travers des relations humaines. Aujourd'hui, ces gens-là sont des entreprises, parfois même des grandes entreprises, en tout cas au niveau du chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Et du coup, à un moment, il y a quand même eu une rupture au moment de la remontada, ce fameux 6-1 contre le PSG, que Neymar a très mal vécu, parce que l'homme de ce match, c'est Neymar. C'est lui qui fait basculer le match ce soir-là. Il est immense ce soir-là. Et le lendemain, toute la presse catalane, tout l'environnement du club catalan ne parle que de Messi, avec notamment sa fameuse photo qui était en une de tous les journaux, debout, les bras en croix. Et ça, ça a été une rupture aussi pour l'environnement de Neymar.
Gilles Verrez.
Il y a deux choses. Il y a l'aspect économique, effectivement, où le Qatar peut offrir, via le PSG, ce qu'on ne peut pas offrir à Neymar à Barcelone, c'est-à-dire non seulement un salaire extraordinaire...
On va y revenir dans un instant.
...mais une reconversion. Et le plan sportif, c'est qu'effectivement, Neymar s'est dit, si je veux être ballon d'or un jour, je ne le serai jamais en restant à Barcelone. Alors. Donc je tente l'aventure parisienne. Il savait que c'était aventureux. Sportivement, honnêtement, il savait que ça n'avait aucun intérêt pour lui, globalement, Neymar. Mais il s'est dit, et c'est là où on rejoindra ce que vous direz tout à l'heure, il y a une équation économique qui me permet de partir. Voilà.
Alors, on va parler forcément d'argent, je veux bien l'entendre, mais si vous voulez mon avis purement sportif.
Mais tu es là pour ça aussi.
Ben, écoutez, il a quel âge? 33 ans, Lionel Messi? Alors, je ne vais pas dire qu'il est cramé, ce serait vraiment exagéré, mais il est plutôt en deuxième partie de carrière, on va dire ça comme ça. Venir m'expliquer qu'un club comme le Paris Saint-Germain, j'aime beaucoup l'expression de quelqu'un qui dit c'est Disneyland. Alors, vous voyez qui je veux dire.
Qui pendant la publicité.
Alors, voilà, tout à fait. Alors, j'ai juste envie de vous dire, si à un moment vous avez un projet sportif comme un club comme le Paris Saint-Germain qui revendique de gagner la Champions League, venir m'expliquer que prend Lionel Messi, si vous m'expliquez que c'est du business, du marketing, de vendre des maillots, de tout ça, des plus-values, je veux bien l'entendre.
Mais si vous m'expliquez que footballistiquement,
Lionel Messi va être une plus-value avec Neymar pour gagner la Champions League, un petit vélo, une grosse sonnette.
Tu affaiblis l'équipe avec Lionel Messi, c'est ça que tu entends, ça nécessite peut-être un peu de nuance.
C'est-à-dire que si pour avoir Lionel Messi, alors il faut fragiliser le milieu de terrain, fragiliser encore la défense au niveau de l'effectif pour faire des économies de salaire, alors oui, ça n'a pas de sens. En revanche, je pense quand même que ça peut être une plus belle chose.
Philippe, c'est pas certain. On est vraiment à contre-courant de ce que vous pensez par rapport à Messi, qui a un talent évidemment extraordinaire, un palmarès extraordinaire.
Vous savez pas ce que je pense.
Simplement, le foot, ça se joue à 11, les amis.
Nous sommes d'accord.
Et déjà, je vous annonce que si Messi vient jouer avec le Paris Saint-Germain et avec Neymar la saison prochaine, on aura le même débat avec Mbappé et Neymar, dont deux joueurs qui ne défendent pas. Voilà, ça, deux joueurs qui ne défendent pas.
Qui marchent.
Et à un moment donné, quand vous voyez le PSG, vous voyez une ligne d'attaque, vous voyez quasiment plus de milieu de terrain, il y a une fracture, et des joueurs en tout cas qui défendent.
Qui défendent un petit peu. Et ça se joue à quand même. Neymar a un petit peu défendu à Manchester quand il faut le faire.
Pourquoi est-ce qu'on parle le prisme d'un seul match pour faire une généralité concernant le comportement de Neymar? Parce qu'on pourrait aussi parler de son comportement par ailleurs et sur d'autres matchs.
Non, mais Neymar, allez pas me chercher sur Neymar, parce que là, j'ai appris les chiffres, je savais qu'à un moment donné, on allait parler de ça.
Neymar,
en termes de chiffres, parce qu'il y a un moment donné, les statistiques, quand c'est sur 3 matchs, ça sert à rien. Mais quand c'est sur 4 saisons, on peut commencer à avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Neymar depuis 4 ans au Paris Saint-Germain?
De ne pas avoir gagné la Champions
League. De s'être blessé. C'est tout.
Ah bah,
c'est
de s'être blessé.
Quelques sorties nocturnes.
D'accord.
Bah, tu te blesses pourquoi? Parce que t'as de l'acide lactique dans le cou.
Il s'est fait casser le pied, enfin, qu'est-ce que tu veux?
Mais pas chaque fois! Pas chaque fois!
Emmanuel Neuer, quand il se fait une fracture à la main, donc il a insulté l'institution.
Mais pas chaque fois! Mais en 4 ans, il a fait combien de bons matchs?
Neymar, il fait 40 matchs de Ligue des Champions, il est 36 fois décisif.
Sur quel match de Ligue des Champions?
Mais tous les matchs qu'il a joué,
sur des matchs de poule, sur des matchs décisifs.
Et c'est quoi ces matchs de poule? Les matchs de poule, c'est contre Liverpool.
Match décisif.
Contre Liverpool, champion d'Europe.
Mais il est peut-être décisif contre Lyon, contre Marseille. Contre Monaco, Dortmund. Mais il faut qu'il le soit
contre
également.
Contre Dortmund pour aller au Final Eight. Au Final Eight, il marche sur l'eau.
D'accord.
Et là, il y a besoin de lui pour jouer à Manchester United. Il gagne tous les matchs décisifs. Tous les matchs décisifs.
Tu n'aurais pas eu besoin de sortir cette liste.
Il est là.
Tu n'aurais pas eu besoin de sortir cette liste pour te justifier sur le comportement de Neymar. Si Neymar avait marqué le but.
Le comportement de Neymar, j'en ai rien à faire.
Un seul but.
J'en ai rien à faire du comportement de Neymar. Moi, je veux pas. Est-ce que Mozart était un bon garçon?
Mais tu l'as acheté pour gagner le Champions League. Tu l'as pas gagné en 4 ans.
Ce qu'il fait sur le terrain. Et là, ce qu'il a fait cette semaine sur le terrain, ce qu'il a entrepris également dans le vestiaire à un moment où le vestiaire était en train de se déliter, il a joué son rôle de leader pleinement. Tout le monde lui a reproché d'avoir pris la parole et d'avoir dit il y a des joueurs qui courent pas assez. Mais bien sûr qu'il y a des joueurs qui courent pas assez.
Et lui, quand il court pas, il y a quelqu'un qui l'ouvre.
Mais c'est pas à lui de courir. Lui, il est là pour être décisif et il l'est.
Sébastien Tarrago.
On a bien compris, je crois. Mais tu prends Neymar depuis 4 ans. Ok, sur le plan sportif, je suis d'accord avec toi, même si on pourrait apporter quelques nuances, parce que je ne crois pas au hasard quand on se blesse. Mais en revanche, à côté de cela, tu peux quand même aussi considérer qu'il a participé à fragiliser le club à travers son comportement. Qu'il se couche aux heures où il se couche, très bien, pas de problème. Mais quand tu fais tout un cinéma autour de tes allers-retours au Brésil, autour de tes anniversaires, tu participes, et tu le sais très bien, à fragiliser le club. Quand le premier anniversaire que tu fêtes, tu as des vidéos qui sortent avec l'un de tes coéquipiers complètement
déglingué. Pourquoi est-ce que ça ne posait pas de problème à Barcelone, et pourquoi ça
tu fragilises le club? Parce qu'ils gagnaient
parce qu'ils ont gagné
notamment la Ligue des Champions. Et que le FC Barcelone à l'époque, ce n'était plus le cas après, et pour la fameuse institution était un peu plus forte, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais tu peux quand même nuancer ton constat. Quand même, il n'y a pas que le terrain.
Gilles Verrez.
Je trouve que Philippe est un peu trop laudateur par rapport à Neymar, mais pas tant que ça. Mais en revanche, je trouve que Stéphane, et même vous aussi quand même Christian, vous êtes totalement délirant avec Messi. Il y a 4 grands joueurs dans le monde. Il y a Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Le PSG en a 2. Comme je vous le dis, si Messi vient, c'est qu'Mbappé s'en va. C'est-à-dire qu'ils vont remplacer un des 4 meilleurs joueurs du monde par le gars qui a eu 6 ballons d'or, qui est le meilleur joueur du monde. Et vous osez me dire, vous voyez le niveau de la Ligue 1 qu'on voit à chaque fois, vous voyez ces matchs apocalyptiques, et vous osez me dire que Messi, laissez-moi finir,
mais pas du championnat de France en l'occurrence. Là, c'est pour faire gagner le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Mais que Messi n'est pas une plus-value au PSG, même en Ligue des champion, mais vous délirez totalement.
Non,
vous avez peut-être le meilleur joueur de l'histoire qui veut venir éventuellement, s'il venait à Paris. Et vous êtes en train de me dire que oui, alors est-ce que Messi c'est le plus... Non, mais vous délirez totalement.
Personne ne délire pas, personne ne conteste le palmarès.
Ah bah si, vous avez dit Messi, qu'est-ce qu'il viendrait faire au PSG?
Bah parce qu'il n'avance plus.
Mais c'est du délire, il n'avance plus.
Mais il marche.
Ça, je ne dirais pas qu'il n'avance plus.
Il avance moins. Vous délirez totalement.
Non, je ne délire pas. À 33 ans, c'est pas...
Sa carrière n'est pas devant lui, elle est derrière.
Ça veut dire que les trentenaires, alors les mettre au rencard. Écoutez, non mais là, arrêtez,
derrière, on va parler de la Coupe de France.
Vous êtes
les
Lionel
Messi viendra jouer un 6 janvier, le 32e de finale.
Mais
de
vous
venez de
me dire qu'on s'en foutait qu'il vienne jouer ça. Christian, vous venez de me dire on s'en fout de la Liga et de la Coupe de France. Et maintenant vous me dites on verra s'il viendra jouer 6 janvier.
Je pense que Messi aurait intérêt à se foutre de la Coupe de France.
Ah.
Mais comme le jeu football se joue à 11 et avec plus de 11 joueurs, c'est-à-dire un groupe de 22, pour ne pas fragiliser un vestiaire à un moment donné, tu ne choisis pas tes matchs, tu ne choisis pas tes rendez-vous, et il me paraît évident que Messi, désormais, avec la carrière qu'il a eue, cette carrière est derrière lui, mais elle n'est pas...
Non, mais les grands joueurs,
vous croyez pas que Christian...
Je pense que Neymar choisit de temps en temps ses matchs.
Les grands joueurs, ils choisissent tous leurs matchs. Ronaldo, peut-être.
Gilles, il a 33 ans, c'est pas dans un projet sportif de prendre Messi.
Non, mais vous rigolez.
Mais si vous voulez voir le PSG jouer à 9, parce que Neymar et Messi auront décidé de choisir
et de marcher.
Mais avec Choupo-Moting, vous voulez peut-être qu'il revienne Choupo-Moting.
La seule vérité, c'est que là, ils devaient gagner un match contre Manchester, ils l'ont gagné. qu'ils ont été au Final Eight l'année dernière dans une saison effectivement tronquée.
Pour tout le monde.
À l'arrivée, ils vont en finale, ils perdent d'un but contre le Bayern. Tout le monde se prend des volets contre le Bayern. Ils font un match, si Mbappé la met à la 43e, peut-être qu'il la gagne cette Ligue des Champions.
Mais
ça veut dire qu'il manque quoi? Il manque rien. Là, on vous dit que ce petit rien, c'est Messi, ça ne vous suffit pas.
En 4 ans.
Mais vous êtes extraordinaire.
Et Philippe s'en fout, je ne peux pas laisser dire. En 4 ans, tu mets une blinde de pognon. Tu mets une blinde de pognon sur un grand joueur. D'ailleurs, dans le top 4 du monde, me dit Gilles Vert.
Ah oui, dans le top 4.
Et tu gagnes rien. Tu gagnes rien.
Tu mais gagnes rien, il a gagné les 4 titres nationaux, il va en finale de Ligue des Champions.
Tu n'as pas gagné la Champions League.
Tu ne l'as pas gagné. Vous avez mangé quoi? Ne laissez parler. Ne parlons pas du championnat.
C'est formidable.
Parlons de la Ligue des Champions.
Mais vous avez Neymar, Messi dans votre équipe, vous avez plus de chances de gagner la Ligue des Champions.
Tu
ne reconnais pas Lionel Messi et Neymar pour gagner la Coupe de France.
Sébastien Tarrago, au ras-le-bol de la France.
Ah, je sais pas, cette conversation est surréaliste parce que vous-même, vous nous expliquez que le foot se joue à 11 et vous ne mettez jamais cette équation dans votre réflexion. C'est-à-dire que moi, s'il y a Neymar et Messi, mais qu'à côté, il y a une belle équipe, alors je pense que c'est plutôt positif.
Non, mais je crois qu'on
si on prend Neymar et Messi et que derrière on met des pimpins, alors là, effectivement, je pense que c'est une mauvaise décision.
Mais je ne suis pas contre la venue de Messi. Ah. Je demande à voir.
Mais voilà le mot de la fin.
C'est un peu l'école de Pascal Pro, ça. Hein. Voilà. Mais Messi au PSG, c'est formidable.
Bah non, moi je pense pas.
Mais c'est une garantie touriste pour gagner la Ligue des Champions.
Mais vous n'en avez jamais de garantie. Il vous faut quoi?
Messi ne l'a plus gagné depuis 2015. Il n'y a pas de garantie. Allez. Tu voulais gagner la Champions League, tu ne l'as pas gagné. C'est sûr qu'il n'y a pas de garantie.
La publicité, les messages avec Baptiste Durieux, la Ligue 2, et on parlera de la Coupe de France après justement la publicité.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Allez, on descend en température, on fait le match avec Sébastien Tarrago. Philippe, moi ça va parfaitement.
Ah bon, mais vous m'avez inquiété.
Que les choses soient très claires. Vive Lionel Messi, qu'il vienne au Paris Saint-Germain.
Est-ce que vous ne feriez pas légèrement machine arrière?
Non, mais pas du tout. Mais ça nous fera. Ça nous fera une nouvelle saison de débat.
Christian, il faut quand même dire une chose, c'est que cette histoire est loin d'être faite. Donc on va attendre.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé quand même de la surface financière du Paris Saint-Germain, du fair-play financier qui sera peut-être remodelé. Mais enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait 100 millions de déficit la saison dernière, qui s'ajoutent aux 150 millions de cette année. Ça fait 250 millions. Le fair-play financier ne veut pas qu'on dépasse sur 3 ans.
On a l'impression d'être revenu 5 ans en arrière.
50
c'est la démonstration qu'on faisait il y a 5 ans quand Neymar et Mbappé sont arrivés. 5 ans plus tard, on s'aperçoit qu'ils ont fait gagner deux fois plus d'argent qu'ils en ont coûté.
Le modèle existe.
Le fair-play financier a été enterré par Manchester City. Vous en faites ce que vous voulez du fair-play financier.
Okay. 80 millions de salaire à Barcelone.
Mais je vous dis que ça se fait que si Mbappé s'en va, vous récoltez 300 millions.
Et Neymar, lui, en a 34-35 actuellement.
Oui.
Oui, il y a aussi des lois en France. Oui. Par exemple, il y a l'impatriation qui vous permet déjà de retrancher 30% sur les impôts du garçon. Donc, ça permet déjà d'avoir un avantage financier. Alors que d'habitude, la France a des désavantages sur ce plan-là. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est pas totalement.
Puis c'est pas notre argent.
D'ailleurs,
faut-il supprimer la Coupe de France?
Accessoirement.
Faut-il supprimer la Coupe de France? Alors, tout est parti d'abord d'une petite phrase quand même dimanche dernier de Noël Legrette qui disait c'est presque cuit la Coupe de France parce qu'on va avoir du mal à caser tous les tours qui ont déjà été supprimés, les entraînements qui ne peuvent pas se faire au 15 décembre et si c'est le 20 janvier, c'est absolument impossible. Et puis, il y a eu l'intervention du Premier ministre à la question « La Coupe de France est-elle morte ?» Alors là,
Mais
le
non,
Premier ministre,
était...
ouais. Et au même moment,
il
a dû
pris au dépourvu, il comprenait rien.
Je pense qu'il était...
Non, c'est pas ça. Il a quelques dossiers à gérer quand même. Et là, il s'est retrouvé face à un animateur, Jean-Jacques Bourdin, qui connaît bien le football et qui aime beaucoup le football, puisqu'il est notamment actionnaire à Nîmes, qui l'a amené sur ce terrain. Et là, le Premier ministre, il était dépassé, il s'est emmêlé les pinceaux.
Selon mes informations fédérales, la Coupe de France, les communicants du Premier ministre, personne ne l'avait briefé.
Mais oui, c'est ce que disait.
Bon, ça se voit d'ailleurs sur le foot, donc nous c'est central, mais
alors,
c'est vrai
sauf
pour lui.
Sauf que maintenant, le foot amateur, à part. Enfin, je veux dire, il y a des communicants, on peut le briefer, la Coupe de France.
Mais d'accord, mais vous rendez compte du nombre de 5000 clubs. Mais
quand
pour
même.
Le coup, le nombre de sujets qu'il traite en ce moment, je le trouve pas brillant.
Alors, c'est comme Neymar,
mais
à la sortie du match, le Premier ministre dit bon, on verra ça un peu plus tard.
Sauf que Neymar avait préparé son intervention.
Et puis, quel est les stats de Neymar déjà?
Non, ce qui est dramatique sur le football amateur. Non, mais plus sérieusement, ce qui est dramatique sur le football amateur, c'est que là, aussi bien M. Castex qui s'en mêle les pinceaux, ça fait des mois
qu'on est en train de nous tenir des discours. Rappelez-vous même avec la ministre des Sports, madame, l'ex-ministre des Sports, Madame Marchier.
Ils l'ont mise sous tutelle.
Elle a quand même été aussi, à ce moment-là, elle pataugeait aussi sur le football amateur. On
pataugeait depuis quand même. Mais c'est plus gênant qu'elle, elle pataugeait.
Oui, mais c'est plus gênant que M. Castex.
La question est la suivante. Une seule fois, la finale n'a pas pu se jouer, malheureusement, suite à la tragédie de Furiani. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, avec une épreuve qui a été créée en 1907, c'est Pantin qui a gagné la Coupe de France. La Coupe de France a toujours été placée au calendrier du football français. Faut-il la supprimer, Gilles Verbès ?
Mais c'est une honte ce qui se passe. On est en train de balayer l'histoire du football avec effectivement ce Premier ministre. J'adore Noël Le Graët, mais là je trouve qu'il doit se battre pour sauver la Coupe de France. Tuer la Coupe de France cette année, c'est la tuer définitivement. Et c'est ce que veulent certains clubs professionnels qui ne la jouent plus ou la dénigrent. Il faut redonner sa lettre de noblesse à la Coupe de France. On a supprimé la Coupe de la Ligue, très bien. Maintenant, on fait jouer la Coupe de France le week-end. On met la Ligue 1 à 18 clubs et on restaure ce qu'est cette merveilleuse épreuve qu'est la Coupe de France. Et vive le football amateur.
Créé en 1917, pour être précis.
Moi, en revanche, je ne crois pas un instant que si la Coupe de France ne devait pas avoir lieu cette saison, elle serait supprimée, elle serait morte. En aucun cas. La saison prochaine, sauf encore une fois des problèmes liés à la pandémie, la Coupe de France aura lieu, elle sera jouée comme avant et il n'y aura pas de soucis. En revanche, cette année...
Qui a exprimé un risque ?
Mais personne. En revanche, cette année, il y a un risque.
Moi.
Non, mais pour cette année, il y a un risque, évidemment. Mmh. C'est-à-dire que là, à un moment... Le calendrier, il va devenir très problématique. À la fin de la saison, il y a ce qu'on appelle un euro. Donc, à un moment, on va pas pouvoir jouer au mois de juillet la finale de la Coupe de France. Donc là, il y a un problème de date. Puisque là, déjà, quand on sera en décembre à la trêve, on aura joué moins de matchs de Ligue 1 que la saison passée. Donc, le calendrier va être extrêmement bouché. Alors, par grâce, les clubs français sont tellement nuls en Coupe d'Europe que ça va libérer quelques dates. Mais c'est très compliqué, là, jusqu'à la fin mai. Hein.
C'est moi, Philippe, qui exprime cette question de façon un peu caricaturale. Mais néanmoins, tout est possible désormais dans le football business des années 2020.
C'est un peu comploté, ça,
tout est possible.
Sujet,
qui eût cru qu'à un moment donné, la Ligue Europe allait supplanter la belle Coupe de l'UEFA, alors qu'on avait de jolis clubs qui participaient à la Coupe de l'UEFA? Qui avait pu imaginer qu'on aurait eu la Ligue des Champions à la place de la Coupe d'Europe des clubs champions? Qui aurait pu imaginer?
Oui, mais attention, là, vous parlez d'évolution de formule. En discuter,
oui,
on peut être contre, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, ça reste une Coupe d'Europe. Vous dites carrément la Coupe de France va être supprimée.
Faut-il supprimer, Sébastien, compte tenu désormais du calendrier?
En plus de cela, elle rapporte environ 35 millions d'euros à la Fédération française de football. Je vous garantis que la Fédération française de football, elle n'a pas envie de s'asseoir sur 35 millions, hein, surtout cette année.
Hein. 35 millions et 12 millions de dotations pour les clubs. Mais Stéphane Powell.
Là, on parle des calendriers, on parle d'argent. Mais fondamentalement aussi, la Coupe de France a fait jouer des petites équipes, des petits clubs, des petites régions. Il n'y a pas de petites économies. C'est aussi des économies. Ça veut dire que ça fait vivre aussi le patrimoine local. Je pense que il faut pas oublier cela non plus. Ça veut dire que la Coupe de France, c'est pas que le Paris Saint-Germain ou Rennes, quoi. C'est aussi tous ces petits villages. Je pense que socialement
c'est
parlant,
surtout, j'ai envie de dire.
C'est 7000 clubs. C'est aussi des gens. C'est aussi des gens qui ont du cœur. C'est des gens. C'est des couleurs. Je vais pas faire le populiste à deux balles, mais cette Coupe de France, elle représente aussi le monde du foot, ce monde de foot que l'on aime. On peut pas arrêter ça. On doit trouver des moyens pour ne pas arrêter ça.
Pour l'instant, on est face à une situation très complexe sur le plan sanitaire qui donc nous fait semaine après semaine faire le constat qu'on va pas y arriver, que ça va pas rentrer dans les clous. Pour quelle raison? C'est parce que il y a un moment où ça bascule. C'est-à-dire il y a un moment où les amateurs ayant joué tous les tours préliminaires entre eux ont fait rentrer les professionnels, et que cette jonction, ce point d'équilibre, il ne pourra pas se faire début janvier, comme c'était logiquement le cas. Donc il faut trouver une formule, si on veut qu'elle puisse exister cette saison,
Philippe.
Il faut trouver une formule où on va pouvoir étirer le calendrier des amateurs et faire rentrer les professionnels plus tard. Est-ce qu'il faut, j'en sais rien, je lance des trucs en l'air, mais est-ce qu'il faut une formule play-off où en fait les professionnels joueront entre eux et les amateurs joueront entre eux de manière conjointe, et ensuite tu fais rentrer un certain nombre d'amateurs et un certain nombre de professionnels dans l'équation?
La conclusion, Gilles Verlet.
Moi je trouve que Christian, votre question, elle est légitime. Et Philippe et Sébastien, vous faites preuve d'un angélisme incroyable. Oui, peut-être qu'on la jouera pas cette année, mais elle est pas menacée. Vous savez très bien que les clubs pro veulent plus la jouer. Les clubs pro mettent des équipes bis ou
des équipes C. Si jamais il n'y a pas cette année la Coupe de France, on va dire finalement on s'en passe très bien, on la jouera plus. Donc défendez la Coupe de France, défendez le vrai football, ouais, si vous aimez le vrai football.
Il y aura la Coupe de France la saison prochaine.
Et je rappelle que
je sais, pour Messi, je ne sais pas, mais pour la Coupe
de
France.
Et je rappelle que le 8e tour Ligue 2 et les 32e Ligue 1 ont déjà été déprogrammés, reportés en tout cas, avec le 6e et 7e tour avec les clubs amateurs ont eux aussi été déprogrammés. Il faudra
penser à tout cela, et il faut penser à tous les jeunes aussi qui ont envie d'aller voir ce genre
et
de match.
Et si on pensait à la publicité aussi, tout de suite, on fait le match.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Les 30 dernières minutes dont fait le match, 20h, RTL Foot avec l'intégralité de Montpellier-Paris-Saint-Germain. En studio toujours, Stéphane Powels, Gilles Verdez, Sébastien Tarrago et Philippe Sanfourche. Après avoir parlé de Messi, après avoir parlé... on n'a pas trop parlé de Mbappé au fait. Mbappé. Ah. C'est grave, docteur ? Parce que là...
J'ai pas compris votre question, c'est si grave que ça ?
C'est-à-dire que, qu'est-ce qui cloche actuellement ? C'est la tête ou les jambes ? Parce que Mbappé, pour le coup, j'aurais voulu parler de Marseille, mais un mot quand même de...
On va parler de Marseille aussi.
J'ai fatigué Mbappé, mais il a dit lui-même qu'il a pas eu de coupure. Pour moi, c'est juste un problème physique. C'est un joueur qui est éreinté, qui l'a avoué, qui peut pas se reposer parce qu'il est indispensable partout. Franchement, je pense que...
Mais il râlait quand il
s'est fait hivernal là-dessus et il repart...
La thèse de l'aspect physique me paraît...
Spécieux.
Ouais, un petit peu. Je pense que physiquement ça va à peu près, mais qu'en revanche il se complique la vie et qu'il a oublié ce qu'était le football et que, comme vous le disiez, le football ça se joue à 11
et il y en a marre des passements
collectif,
de jambes
que non mais passement de jambes pourquoi pas, mais si ça a du sens,
ouais, mais s'il aboutit surtout.
Moi je suis vraiment fatigué par cette obsession des stats, mais qui est la sienne, qui est celle souvent des journalistes, de nous médias, des gens, ça me fatigue quand je vois qu'il... Ça a beaucoup amusé les gens l'année dernière quand ils ont fait une photo pour ses 100 buts à l'entraînement. Je trouve ça grotesque. Grotesque. En revanche, quand après le dernier match de Ligue des Champions, on dit qu'il... Pardonnez-moi, j'entends qu'il a été nul. Là, je dis non. Il n'a pas été bon. Mais au final, il est quand même sur le premier but.
Il était précieux.
Et sur le premier but, il n'y a pas que la frappe ratée. Enfin, contrée. Non, il est au départ de l'action. Et puis après, la passe qu'il fait à Rafinha... Elle est merveilleuse sur le dernier but, celui de Neymar. Elle est merveilleuse. Donc, là encore, un tout petit peu de nuance. En revanche, je pense qu'il... Moi, j'aimerais qu'il aborde le football différemment.
Et où est passé le Mbappé buteur?
Non, mais ce qui est terrible...
Le buteur en Ligue des Champions.
En Ligue des Champions, manifestement, ça coince et ça commence à lui prendre la tête. Donc, comme effectivement, il a ce syndrome de la stat et qu'il veut absolument gonfler les compteurs, ça lui prend la tête. Il n'y a pas que ça qui lui prend la tête. On l'a évoqué tout à l'heure. Ouais. On est dans une période où il se pose vraiment la question de savoir si son avenir... est au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Et il n'a pas vraiment la réponse. Il a un sentiment, il a plutôt une envie d'ailleurs. Philippe. Mais comme en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes partout, il n'est pas non plus certain que ce soit la bonne idée.
Ça ne fait pas partie de la fissure dans le vestiaire, ajoutée justement à l'annonce de
Neymar.
Mais
où est-ce que vous trouvez une fissure dans le vestiaire ?
Non, je pose la question. Tu vois, la déclaration de Neymar concernant Messi, justement, ça ne participe pas à quelque chose qui pourrait psychoter dans la tête de Mbappé également ?
Je vous ai dit, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Neymar commence à parler de Messi, c'est que lui, il a déjà entériné le départ d'Mbappé. Ce qui, à mon avis, est loin d'être une certitude. Ah ouais. Mais ils parlent beaucoup, les deux. Hein. Ils parlent beaucoup ensemble. Et chaque année, ils font le point un peu sur le thème « Bon, toi, t'en es où ? Tu fais quoi ? Moi, je vais sûrement rester. Est-ce que tu prolonges ?» Ah, j'en sais rien. Ils se taquinent beaucoup là-dessus. Mais ils se marquent à la culotte, de toute façon. C'est une évidence. Christian. Et je pense que Neymar... je sais que Neymar est dans une équation où lui est certain qu'Mbappé va partir. Ce qui est loin d'être fait, mais ce qui est quand même la tendance du moment. Mais donc ça le perturbe, Mbappé. Il a une période de sa carrière. Il va avoir 22 ans. Attention, il n'y a pas 28 ans. Hein. Il va avoir 22 ans. Ronaldo à 22 ans. Souvenons-nous. Donc, je pense qu'il est dans une période qui est spéciale. Il va falloir qu'il la gère, qu'il la digère. Mais peut-être que ce qui s'est passé là et que le PSG va peut-être se qualifier va l'emmener jusqu'au printemps et qu'au printemps, on en parlera différemment. C'est aussi comme ça qu'un joueur grandit. C'est en passant par ces étapes-là.
Stéphane Powels.
Je vais vous faire un peu mal, parce que ami français, mais il a 22 ans. Et c'est un grand talent. Hein. Depuis le début, on nous l'a annoncé comme un phénomène.
Il est champion du monde. Hein.
Non, non, Vous contrairement à vous. Mais voilà. On tombe dans de la connerie comme ça, contrairement à vous. Contrairement à vous, il attaque la Belgique.
Mbappé, non, mais c'est vrai qu'il est champion du monde, contrairement à vous.
Est-ce que je suis en train de critiquer Mbappé? Je suis en train de vous finir. J'étais en train de finir.
Je préférais prévenir que guérir.
Donc, oui, mais moi, je préfère aller au bout de mon analyse que vous et vous attaquer la Belgique tout de suite parce que c'est indécent. Et moi, je n'attaquais pas. Je disais simplement que ce gamin, on lui a fait un boulard. Et que ce boulard, c'est logique. Quand on a 20 ans, qu'on est champion du monde.
Il avait besoin de personne, Stéphane.
Non, mais quand on a tout gagné. Et qu'on ait ce talent-là, à un moment, c'est normal qu'on marche sur l'eau. Quoi. Et on n'est pas dans le bon truc. Sauf qu'à un moment, c'est ça que je reproche à l'institution, il n'y a que Didier Deschamps qui, de temps en temps, lui a mis une petite tape dans la nuque en disant « Maintenant, tu reviens les pieds sur terre », c'est qu'il a joué dans un club qui on a laissé faire cette espèce de comportement, avec des comportements de Neymar, et on ne l'a pas aidé. Moi, je ne critique pas que Mbappé pourrait éventuellement avoir un boulard et de temps en temps déconner. Je critique qu'à un moment, on n'a pas tout fait pour qu'il puisse garder les pieds sur terre et penser uniquement au football. Mais je ne suis pas là aussi pour juger ce gamin en disant tout d'un coup, du jour au lendemain, il a été, comme dit très bien Sébastien Tarrago, il a été mauvais au dernier match. Il n'a pas été si mauvais que ça. Hein. Il donne un assist et il contribue au jeu.
Le football, il ne se joue pas à 11, il se joue à 9, plus Neymar et Mbappé. C'est totalement illusoire de penser que tout le monde est sur un pied d'égalité. Et Stéphane qui, en 10 minutes, fracasse Messi puis fracasse Mbappé. Mais vous fracassez les meilleurs joueurs du monde.
J'ai dit que c'était un joueur exceptionnel. C'est le management de l'institution.
Mais bien sûr,
il comprend.
Il dit qu'il a la grosse tête. Seul Deschamps peut le calmer.
C'est la vérité.
Quitte à trouver presque naturel qu'à un moment donné, tu chopes la grosse tête.
Mbappé, il va à Bondy quasiment tous les week-ends pour donner tout ce qu'il peut au club. C'est ça, avoir la grosse tête. C'est l'homme le plus humain, c'est l'homme le plus généreux, l'homme le plus altruiste. À la fois sur un terrain et en dehors, Mbappé est l'homme le plus altruiste. Plus que tous ici, plus que tous dans Paris. Et vous osez critiquer Mbappé, la grosse
tête. Vous aimez critiquer la Belgique alors que j'attaque même pas Mbappé.
Non, je suis ravi.
Je suis content d'être venu parce que j'ai appris quelque chose, c'est que Kylian Mbappé était le joueur de football le plus altruiste du monde.
Absolument. Si vous saviez tout ce qu'il fait sans en faire publicité, vous seriez très étonné.
Je ne voudrais pas mettre mal à la Gilles Verdez, mais profiter de sa présence pour parler de Paul Pogba également, Sébastien Tarrago.
Ah ben, Paul Pogba, il y a 2 mois, vous avez voulu faire un débat pour dire que c'était le meilleur joueur du monde.
Oui.
Bon, je pense que vous êtes allé vite en besogne, mais pourquoi vous remettez sur le tapis?
Dans les couloirs de RTL, semaine en semaine, quand est-ce que Gilles Verdès vient pour que je lui parle de Paul Pogba?
Vrai ou faux? On s'est remis à 15 jours.
Aussi, une émission, c'est Messi, Mbappé, Pogba. Très bien. Non, mais continuez comme ça.
West Ham mène devant Manchester United.
D'ailleurs, Manchester, oui, ça va pas mieux. Hein. West Ham et il est titulaire pour une fois.
L'Olympique de Marseille, alors, l'OM a double visage, nul en Ligue des Champions. Et pas mal, ma foi, en tout cas efficace, pragmatique en championnat.
Ah oui, mais bon,
et à l'image de son entraîneur, qui a un coup, la saison dernière en tout cas, excellent communicant, avec le soutien des joueurs, et là qui part en vrille à chaque conférence de presse, qui nous dit que son recrutement n'a pas été bon, qui, il y a 3 semaines, nous disait que Dimitri Payet était en forme, avait le poids comme il fallait, et qui nous explique maintenant qu'il va falloir lui préparer un plan, car rien ne va dans la condition physique de Dimitri Payet.
Pour le coup, c'est surréaliste parce que quand ils ont pris le jeune, Luis Enrique, merci beaucoup. Tout le monde, on ne le connaissait pas ou très peu, et tout le monde, toutes les gens qui se sont enseignés ont su que ce n'était pas un avant-centre,
bien sûr,
que c'était donc un joueur de côté.
Et nous l'a vendu comme
avant-centre. Je sais, mais eux aussi, c'est pas possible.
Mais aussi,
ils le savaient aussi quand même. C'est pas possible.
C'est du business.
Donc ils nous ont
Sébastien,
raconté
vous le savez très
n'importe
bien.
Quoi. Et ils ont, oui, c'est du business, mais ils ont mis quand même 10 millions.
Oui, bah oui.
Et sur ce joueur qui pour l'instant ne joue quasiment jamais. C'est du business dangereux.
C'est surtout qu'il y a une mauvaise foi absolue quand on entend aujourd'hui que le discours c'est de dire on l'a pris à 10 millions parce qu'aujourd'hui il sera à 25 ou 30.
Bah ouais.
Mais c'est tellement faux. C'est tellement faux. Il est à Botafogo, il n'est pas au fin fond du Pérou. Tout le monde l'a vu, ce joueur, tout le monde le savait. Il avait déjà fait 21 matchs, il avait mis 2 buts. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'en aurait pas mis plus.
La vérité,
mais il n'était pas identifié par les plus grands clubs comme une pépite. Et une fois, je crois qu'effectivement, il était un peu supervisé par la Juve, mais ils n'ont pas donné suite et ils ne l'ont pas pris. Bon.
Et Dimitri Payet, qui était identifié en surpoids par les observateurs.
Ça fait 4 ans qu'il est
pas par Villas-Boas, qui maintenant constate effectivement. Ouais, c'est ce double langage.
Il est en roue libre, il sait qu'il
part.
Il est en roue libre, il sait qu'il qu'il part et il est complètement désinhibé. Donc il taille les médias, il dit vraiment ce qu'il pense maintenant là. Ce qu'il pense peut changer. Mais globalement, ça balance. Il est expulsé, il s'en fout, il va partir.
Allez, la publicité, on fera 5 minutes, 5 bonnes minutes sur Zidane, sur Patrick Vieira, sur Mediapro, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle dans les licenciements d'entraîneurs à venir. Encore faut-il avoir les moyens de payer les indemnités. Et puis ensuite, les tirs au but. On n'a pas parlé depuis le début de cette émission des tirs au but. C'est un rendez-vous désormais culte avec, je le rappelle pour tous ceux qui nous rejoindraient, des sujets qui n'ont pas été transmis comme certaines autres émissions politiques. Pas sur RTL, jamais sur RTL. Hein. Vous savez que les politiques sont à peu près au courant des thèmes qui sont évoqués dans les émissions. Jamais en sport.
Sauf Monsieur Castex.
Je vous soumets. Non, la preuve, c'est qu'il a été surpris.
Bah oui.
Il a été surpris par cette histoire de Coupe de France. La publicité, Patrick Vieira, Zinedine Zidane.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On fait le match avec Gilles Verdez, Stéphane Powels, Sébastien Tarrago, Philippe Sanfourche et Baptiste Derieux. Vous tous également sur les réseaux sociaux pour vos nombreux messages.
Beaucoup de messages, effectivement. On va prendre les trois sujets que vous avez évoqués. D'abord, la Coupe de France, message de Basile. Je propose que la Coupe de France ne soit jouée que par les clubs amateurs cette année. Fini les problèmes de calendrier et on emmène le vrai foot au Stade de France, nous dit Basile. Beaucoup de messages sur Mbappé, évidemment. Johan, qui est champion du monde et ultra décisif dans la compétition? Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 sur les dernières années, qui est aussi devenu un redoutable passeur décisif? Et bah, c'est Kiki. Et puis message de Ryan aussi sur l'Olympique de Marseille. Marseille n'a perdu aucun de ses 14 derniers matchs à l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens. Je pose ça là. Je suis à la fois très admiratif parce que réalise Marseille en championnat, mais aussi très inquiet quand on voit que le presque leader de Ligue 1 se fait ouvrir en Ligue des Champions.
On passe à la Ligue 2, Baptiste.
Absolument, c'est presque la mi-temps, 42 minutes de jeu très exactement. Toulouse et Guingamp, ça fait 0-0 pour l'instant. 0-0 entre Dunkerque et Châteauroux. Rodez qui mène face à Amiens 1-0. Chambly qui mène également face à Valenciennes par un but à 0. Clermont qui mène 1-0 face à Pau. 0-0 entre Nancy et Sochaux. Grenoble qui mène pour l'instant face à Caen. Un but à 0. Et puis Auxerre qui mène face à Niort 2-0.
Et je vous rappelle qu'en Ligue 1 cet après-midi, Lens est allé gagner à Rennes sur le score de 2-0 et qu'on en a débattu pendant au moins 20 minutes dans On refait le match.
J'en ai de fier.
Assez. Non, mais ça, c'est message à ceux qui nous disent toujours vous ne parlez que du PSG, puis de Marseille, voire de Lyon, et les autres, vous n'en parlez jamais.
Aujourd'hui, on ne parle que de Rennes.
Et on va même parler de Zinedine Zidane, et des entraîneurs. Zidane, qui était en sursis après cette nouvelle défaite ou contre-performance, on va dire cela comme ça, au Shakhtar cette semaine 2-0. Et cet après-midi, le Real Madrid a performé en Liga en battant Séville sur le score d'un but à 0.
Donc et sans Giroud.
Sans
Giroud.
Vous avez craqué, Philippe Sanfourche? Sans Giroud. Oh. Sans Karim Benzema.
Sans Benzema.
Ah,
non, ce qui
est fait peur. Giroud contre Séville.
Ah oui.
Oui, Giroud,
vous n'aurez pas expliqué. Giroud a mis 4 buts.
Que vous avez mis 4
buts. Mais là, j'y étais pas non plus.
Il est fatigué, il est perturbé par Messi. Il n'y a que Giroud perturbé.
Je vous annonce que le samedi 2 janvier, c'est Philippe Sanfourche qui présentera l'émission. Il faudra être très clair, Philippe.
Spécial Messi.
C'est surtout que je vais choisir des chroniqueurs qui écoutent un peu.
Non, mais sur Zinedine Zidane. Sur Zinedine Zidane.
Stéphane Powels.
Dans 15 jours, s'il repère une fois, on va nous dire... ça y est, on va couper la tête à Zinedine Zidane. T'as l'impression qu'il y a des médias qui ont envie de lui couper la tête régulièrement. Moi, je constate quand même que quand tu joues sans Benzema, quand tu joues sans Ramos, c'est quand même un petit peu plus compliqué. J'ai vu les matchs contre l'Inter. Ok, c'était pas génial, mais il gagne à la rage il y a 2 semaines contre l'Inter. Effectivement, c'est pas du grand Real, mais est-ce qu'on doit systématiquement à chaque fois remettre Zinedine Zidane?
Le problème, pour le coup, c'est que je ne crois pas du tout que ce soit particulièrement les médias, notamment les médias espagnols, qui remettent en cause Zinedine Zidane. En fait, la réalité de ce club, c'est que il y a aujourd'hui des courants qui demandent du changement, voilà. Et donc du coup, ça devient une actualité, ça devient une information. Et Zinedine Zidane le sait lui-même, il est en grand danger. Et si jamais mardi ou mercredi, je ne sais plus, il devait être éliminé de la Ligue des Champions,
ça, c'est en est sans doute. Le Real jouera contre Mönchengladbach.
Absolument.
Ouais, on peut rappeler le classement. Hein. Mönchengladbach en tête, 8 points. Le Real est 3e, 7 points. L'Inter, 5 points.
Le Shakhtar a 7 points également.
Et
le Shakhtar,
s'ils gagnent,
ils sont qualifiés. Mais s'il devait être éliminé, alors il en est très probablement terminé de l'aventure.
Ce que je voulais expliquer, c'est que quand tu joues sans les cadres, c'est quand même un petit peu compliqué, comme tous les entraîneurs.
D'accord. Mais ça, c'est la vie d'un entraîneur et c'est valable pour tout le monde. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une sorte de complot médiatique à l'encontre de Zinedine Zidane.
Non.
Je pense plutôt que globalement, M. Zidane est plutôt bien servi.
Bien protégé.
Donc, il se trouve qu'au Real Madrid, c'est particulier. Que, et malgré interne, son palmarès formidable, il pourrait être licencié.
Et en interne, les opposants mettent en avant des arguments techniques, psychologiques, de préparation, etc.
Mais aussi de protection, parce que c'est sa façon d'être et de faire dans un vestiaire, des cadres, de surprotection parfois des cadres. Et du fait que, ça vient aussi étayer l'hypothèse du changement qui n'arrive pas, c'est que on est toujours en fait obligé de se reposer sur les mêmes joueurs qui sont quand même, malgré leur talent, un peu vieillissant. Je pense à des joueurs comme
Marcelo.
Il y a un moment, ça va arriver en bout de course. Et tous les apports en fait qui ont été demandés, Eden Hazard par exemple, par Zinedine Zidane, pour l'instant ne donnent absolument
parce
pas satisfaction.
Ils ont beaucoup dépensé l'année dernière, beaucoup, et pour l'instant c'est un échec à ce niveau-là.
Patrick Vieira. Alors est-ce que c'est un échec également ? On n'a pas beaucoup de temps car les tirs au but se profilent à l'horizon. Mais Patrick Vieira.
Je peux dire un mot sur la félonie qui s'est organisée autour de Nice.
Que donc Patrick Vieira a été limogé cette semaine. Après une nouvelle défaite quand même en Ligue Europe contre Leverkusen.
Tout ce que vous voulez. Une félonie organisée depuis des mois. Une honte. Et ces gens à Nice, là, ce monsieur Urcea, le nouvel entraîneur, le roumain, là, monsieur Urcea.
Il est pour rien.
Il a organisé avec le staff. Ce staff est honteux. Aujourd'hui, tout le staff de Nice, ils ne peuvent pas se regarder dans le miroir. Pas un n'est parti avec Vieira. Parce qu'ils avaient ourdi autour de lui, ils l'avaient laissé seul. Tous ses adjoints l'ont abandonné avec la complicité des dirigeants, M. River et Fournier, pour que Vieira, dont je ne suis pas le plus grand fan, soit viré. C'est une honte ce qui s'est passé à Nice. C'est une honte. Et j'espère, je suis désolé pour les magnifiques supporters niçois, j'espère que Nice va s'écrouler. J'espère que Nice. Parce que tous ces traites qui sont arrivées, c'est une organisation qui s'est ourdie pour que Patrick Vieira soit viré depuis des mois. C'est scandaleux.
Quelles sont vos sources, Gilles Verdel?
Mais parce que je vous le savais très bien, tout le monde le sait. Ils ont ourdi ça depuis des mois. Ils ont tout fait avec la complicité du staff pour le mettre en solitude, pour le briser, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le retour de ces gens-là.
Moi, j'ai pas les mêmes échos.
Les propos de Gilles Verdel n'engagent que Gilles Verdel.
J'ai juste envie d'avoir un regard extérieur en tant que coach qu'il est. Il voulait mettre en place un système tactique. Il y est vraiment jamais arrivé. Alors, il y a peut-être eu des pots de banane, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, moi, ce qui m'a dérangé que Patrick Vieira, j'adore le mec, le joueur qu'il était, l'entraîneur certainement qui est très bon. Je pense que souvent il a eu cette attitude peut-être trop classe. Vous savez, sur le banc, ils ont eu des puelles, ils ont eu l'entraîneur de Dortmund,
Favre.
Des mecs qui avaient quand même des types qui avaient des tempéraments. J'ai trouvé Patrick Vieira souvent très classique au bord du terrain, sans révolte. C'est peut-être ça que je lui reproche, c'est qu'à un moment il a manqué un peu de révolte. Mais venir dire qu'il y a un complot.
S'il faut être un excité du bocal.
Non, j'ai pas demandé un excité. J'ai trouvé que parfois il était un petit peu platonique, un petit peu. Voilà, c'est juste un avis. Par contre, venir dire qu'il y a un complot, c'est grave.
Personne du staff qui s'en va. Personne du staff qui s'en va. Ils ont organisé le départ de Patrick Vieira depuis des mois. Voilà ce que je dis.
Je répète, c'est simplement factuel. Vos propos, Gilles, n'engagent que vous.
C'est que des faits. Donc,
est-ce qu'il avait les moyens avec les joueurs qu'il avait finalement? Moi, ce qui m'interpelle, c'est j'ai le sentiment, et ça, c'est de source sûre, si je puis dire, Patrick Vieira avait beaucoup de difficultés avec les jeunes joueurs, assez paradoxalement, qui n'entendaient pas le parcours d'un joueur qui est devenu entraîneur avec un palmarès, alors que lui-même a su gérer, par exemple, en son temps, Balotelli.
Oui, alors il a su le gérer, il a eu du mal, et de toute façon, qui n'aurait pas de mal?
Qui a eu du mal, c'est une chose, mais il l'a su.
Ah, ça a été très compliqué quand même, très très compliqué. La dernière saison de Balotelli, avant qu'il quitte le club pour aller à l'Olympique de Marseille, ça a largement pourri cette première partie de saison. Mais bon, franchement, on ne va pas lui jeter la pierre sur Balotelli, c'est injouable. Donc il est ingérable. Mais après, le vrai souci, c'est que oui, il aurait pu faire mieux. Quand même. Vu l'effectif, après il y a des blessures, il y a des méformes, mais ça c'est valable pour tous les entraîneurs. Il aurait pu faire un petit peu mieux au niveau du temps de jeu. Là où je rejoins un tout petit peu Gilles, c'est que on avait quand même la sensation que d'un coup, pour l'environnement du club, il était nul. C'était comme ça. Alors moi je ne vais pas jusqu'à la thèse du complot, mais en revanche il y avait cette espèce de petite musique qui correspondait à rien par rapport au résultat, puisque globalement il avait plutôt eu de bons résultats jusqu'à présent. Il avait qualifié Nice en Coupe d'Europe, alors certes avec vraiment une réussite maximale sur le dernier match, mais voilà, c'était plutôt satisfaisant. Mais au niveau du jeu, il aurait dû faire mieux.
Ouais. Et au niveau de la progression de joueurs, j'en prends un, Nsoki par exemple, qui devait faire mieux et qui aujourd'hui est en difficulté, quoi.
C'est son discours qui était peut-être pas toujours le bon avec les joueurs.
C'est la pub à 19h50, c'est bien cela, presque 51 d'ailleurs, et puis les tirs au but. avant d'attaquer RTL Foot et l'intégralité de Montpellier-Paris-Saint-Germain. Vous me faites peur, Gilles Vernez.
Non, non, je suis triste pour Vieira, j'aime pas ça. Allez, j'aime pas.
Publicité.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Allez, la toute dernière ligne droite dont fait le match, les tirs au but, mais d'abord les messages, Baptiste Durieux.
Sur Zinedine Zidane et puis Patrick Vieira, message de William. Zidane le fait exprès, il fait en sorte de gagner la seule chose qu'il n'a pas gagnée, l'Europa League, évidemment. Message de Simon aussi, Vieira était en poste depuis un moment, il y a eu plus d'un an avec le projet Ineos, c'est pas l'ombre d'un collectif, d'un jeu ou d'une équipe tout simplement. Et puis message de Tristan aussi qui se satisfait du départ de Vieira. Série noire, prestation humiliante, bilan général mauvais avec presque autant de défaites que de victoires. Mais heureusement que Nice a pris cette décision. Et ils auraient même pu la prendre bien avant.
Merci beaucoup Baptiste Durieux. Les tirs au but, les sujets d'actualité, il nous manque un peu de temps, donc on va essayer de faire rapidement. Vous attendez, messieurs, le coup de sifflet hein, pour prendre la parole, si vous le souhaitez. En vrac, le reste de l'actualité qu'on n'a pas évoqué depuis 18h30. Alors, tiens, sur RTL cette semaine, nous n'avions pas Jean Castex, mais nous avions le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui s'en est pris aux footballeurs français à propos de, et notamment concernant Griezmann et Mbappé. Ils ont la dignité sélective, a dit le ministre de l'Intérieur. Cela faisait suite aux violences vers un producteur de musique, Michel Zecler. Les footballeurs, sont-ils dans leur rôle? Oui ou non?
Les footballeurs, ils font bien ce qu'ils ont envie de faire. Ceux qui n'ont pas envie de prendre la parole sur des sujets de société ont tout à fait le droit et nous devons le respecter. Et ceux qui ont envie de prendre la parole sur des sujets de société, on doit les écouter, les entendre comme on entend toutes les autres personnes publiques. Je vois pas où est le problème, je vois pas en quoi il serait différent, ni dans un sens, ni dans l'autre. Après, M. Darmanin, écoutez, il est dans son rôle, parfois est un peu excessif, on va dire ça, et il est pas toujours très heureux dans ses déclarations à mes yeux, mais bon, ça c'est son problème.
Vous avez une Castex, quoi.
C'est Sébastien Tarago qui ouvre le score.
Paul Pogba vient de marquer pour Manchester United et il vient de dédier son but à Sébastien Tarago.
Il est fou.
Ah,
chose à ajouter, parce que M. Darmanin, il devrait aussi, avant de faire ce genre de déclaration, se concerter avec ses petits camarades du gouvernement et notamment M. Blanquer, qui ont été bien contents de venir chercher les joueurs de l'équipe de France pour faire des vidéos et faire des messages, des SMS qui étaient totalement télécommandés et qui ont été faits bien sagement par les joueurs. Pas obligatoirement, mais beaucoup ont répondu présent. Donc, on peut pas, dans un sens, s'émouvoir de ce genre de choses.
Quitte à même avoir l'air un peu bête parfois,
oublier,
parce que c'était mal fait.
Oublier un peu rapidement que les joueurs de l'équipe de France ont été mis à contribution et qu'ils ont répondu
présent. C'est un petit peu facile.
Olivier Giroud, 4 buts cette semaine à Séville. Grâce à lui, Chelsea, premier de son groupe Ligue des Champions. Définitivement, messieurs, définitivement. Olivier Giroud, vraiment, est-il sous-estimé? Définitivement.
Ah,
le coup de sifflet, s'il vous plaît.
Oui.
Stéphane.
En deux mots, puis je laisse la parole aux autres. Je trouve que ce joueur est sous-coté. Je trouve que quand on voit ses statistiques, quand on voit son comportement pour un mec qui joue pas beaucoup, qui est régulièrement sur le banc, et que chaque fois qu'il y a du temps de jeu, il est efficace, je suis désolé, mais 4 buts sur un match pareil. Je signale quand même que Séville avait gagné l'Europa League l'année passée. Il n'a pas joué contre des bras cassés.
Je crois pas qu'il soit sous-coté. Il est titulaire en équipe de France, remplaçant dans un club, Chelsea, un grand club d'Europe, qui a décidé de miser sur la vitesse.
Il est critiqué, Seb.
Je pense qu'il est pas. Oui, mais ça, c'est la vie. Tu connais un attaquant qui est pas critiqué, moi j'en connais
quasiment
pas.
Lui plus qu'un autre. Hein.
Donc voilà.
Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas de
talent. Aujourd'hui, je pense qu'il fait l'unanimité, et puis tant mieux, il le mérite.
Qui avait ouvert le... C'est Stéphane. Donc un partout. Stéphane Tarago.
Tant qu'il n'est pas sous-coté par Didier Deschamps.
Stéphanie Frappard, messieurs, première arbitre femme en Ligue des Champions. Arbitrage parfait, vraiment, cette semaine, entre la Juventus Turin et le Dynamo Kiev. Alors, ceux qui doutaient de ses qualités, doivent-ils s'excuser ou se faire discret?
S'excuser ou faire silence, s'abstenir pendant des mois. Parce que elle a été merveilleusement accueillie par les autorités italiennes et par la Juve, fantastique. Mais il y a beaucoup de sceptiques encore qui grognent sur ces femmes.
Mais qui a grogné?
Ces femmes aussi, ces femmes qui entraînent aussi, il y a énormément, et c'est pas bon.
Mais qui a grogné?
Les femmes à la tête du football.
Mais c'est qui? Mais qui a critiqué Stéphane Frappard?
Je réponds à la question du président entraîneur.
Je crois que personne l'a critiqué. Et surtout, moi, je serais ravi le jour où on n'en parlera plus.
Mourad Boudjelal, qui sera d'ailleurs l'invité d'Isabelle Langer demain 19h30 dans On refait le sport. Il devrait, demain soir, réaffirmer une fois de plus son envie d'être le président de l'OM et de racheter le club. Faut-il le prendre au sérieux?
Oui.
Ah, attention, Stéphane. Très discret, Philippe Sanfourche, sur cette séance de tir au but.
Il faut le prendre au sérieux parce que c'est un chef d'entreprise qui a fait des choses intéressantes. J'ai eu l'occasion de le côtoyer dans le passé. Je pense que ce monsieur ne raconte pas de pipeau. Alors, peut-être qu'il se fait beaucoup, entourer. Oui, mais il y a des gens à côté de lui. Mais je pense qu'il a de l'abnégation. C'est-à-dire qu'à côté de lui, il y a peut-être eu des mauvais candidats. Mais je pense que quand il a la tête, il ne l'a pas ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'il est capable d'aller au bout parce que c'est quelqu'un qui connaît le sport de haut niveau, qui connaît les affaires.
Réalité, c'est qu'aujourd'hui, le club n'est pas à vendre. D'ailleurs, Mourad Boudjelal a fini par le reconnaître sur la chaîne L'Équipe récemment, puisqu'il fait la promotion de son livre. Il était d'ailleurs... Mais alors, ce soir-là, je l'ai trouvé beaucoup plus discret que les autres joueurs, dites donc.
Les tiens, on retourne au football féminin. L'équipe de France féminine qualifiée pour l'Euro 2021 après la guerre des boutons. Vous savez, le célèbre roman de Louis Pergaud. La guerre des bigoudis est-elle terminée?
Ces femmes merveilleuses qui portent la sauce au firmament, la guerre des bigoudis. Vous parlez de crépage de chignon.
Je retire alors.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que la bagarre, pour être dans un vocabulaire plus traditionnel pour le football, elle existe.
Et je présente mes excuses.
Elle existe et malheureusement, elle va continuer à exister. Je ne pense pas que Corinne Diacre et Amandine Henry puissent continuer à travailler ensemble.
Ce qui est très désagréable, vu de l'extérieur, c'est un peu, vis-à-vis de Madame Diacre, du délit de sale gueule. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on s'acharne beaucoup pour Madame.
Alors,
Madame
Diacre.
Elle a fait beaucoup d'efforts.
Je retire alors. Mais je pensais que c'était un peu léger comme cela. 21h, Montpellier-PG.
Ça passe plus.
Vous savez qu'on termine toujours un tir au but sur le match du soir dans RTL Foot. Si Montpellier l'emporte face au Paris Saint-Germain, Montpellier sera
leader
provisoire. Il faudra attendre aussi les matchs de demain. Oui. Lyon, Monaco sont concernés notamment. Lille. Et Lille aussi. Est-ce que ce serait un événement en soi?
C'est forcément un événement. Quand le Paris Saint-Germain n'est pas en tête de la Ligue 1, ça devient un événement. Et surtout quand c'est pas une équipe qui émerge, mais quand il y en a 4-5 comme c'est le cas, c'est absolument pas prévisible.
Allez, c'est terminé, il n'y avait rien à gagner, donc égalité.
C'est ça
parfaite.
Le problème avec votre
égalité parfaite.
Il y avait quelque chose à gagner.
Sébastien Tarrago, Gilles Verdez, Stéphane Poel, que je remercie. Merci à Baptiste Durieux pour ses messages et merci à vous tous de les avoir envoyés. Merci à Damien pour la réalisation. Après 20h, les informations, toute l'équipe d'Éric Silvestro et de Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Raymond Abou, mais également Quentin Vasselin pour l'intégralité de Montpellier-Paris-Saint-Germain. Très bonne soirée à l'écoute de RTL.